répliques, les mots que nous aimons, avec Nathalie Azoulay et Belinda Cannon. La langue n'est pas seulement un outil de communication. Nous avons tous en effet des mots préférés, des mots chéris, des mots qui nous font penser ou rêver, des mots qui nous parlent, des mots qui nous émeuvent, qui nous transportent, qui nous enchantent, des mots mélodieux dont le son et le sens s'harmonisent miraculeusement, des mots clés, des mots thèmes, des mots problèmes. Belinda Cannon et Christian Doumet ont eu l'heureuse idée de demander à une cinquantaine d'écrivains de présenter leurs Lieblingswörter, comme on dit en allemand. Après le dictionnaire des mots manquants, le dictionnaire des mots en trop, voici donc le dictionnaire des mots parfaits. Nous allons le feuilleter avec Belinda Cannon et avec Nathalie Azoulay, qui a participé à l'entreprise. Et j'ai envie de commencer par l'un de vos mots, Nathalie Azoulay, car il fait aussi partie de mon panthéon personnel, chagrin. Pourquoi ce vocable vous est-il si cher? Qu'y a-t-il en lui qui vous arrête et vous captive, Nathalie Azoulay?
Je répondrai par la notice que j'ai écrite à ce sujet dans le dictionnaire des mots parfaits. Le chagrin sonne à nos oreilles comme un refrain de comptine, où il n'est question que de petits lapins, de sceaux et de jardins, alors qu'il mériterait plus de considération. Parce qu'on la colle toujours au génitif d'amour, qui peine à trouver son crédit au prétexte qu'il surviendrait trop tôt et trop souvent, et donc à se parer de la gravité du vrai sanglot tragique, le chagrin d'amour relèverait presque de la versatilité et de la légèreté d'un déni. Ici, un cœur d'artichaut si souvent brisé qu'il en deviendrait plastique ou incassable, et donc négligeable. C'est à mes yeux bien malheureux, car j'y vois volontiers, et contre toute étymologie, une espèce à part de mot-valise, fait de chair et de grains. Une chair grainée par la déception et l'abandon. De la peau donc, dans ce cas-là de plus superficiel, mais aussi de plus profond, de résistance et de fragilité, cuir et soie, cuir à soie. Le chagrin est par définition ce dont on se remet toujours et jamais, une peine intrinsèquement itérative qui égratigne, entaille, écorche la peau à coups de lignes et de stries, y gravant à force le cadastre de nos récidives les plus intimes.
Qu'est-ce qui vous fait préférer quand même ce mot? Parce qu'il y en a d'autres qui désignent un peu la même chose. Il y a la tristesse, le tourment, le désespoir, et vous allez plutôt vers chagrin. Pourquoi, Nathalie Azoulay?
Pour deux raisons. D'abord parce qu'il manque de considération, comme je le disais dans le texte. C'est-à-dire qu'il est souvent réduit à une peine puérile, à une peine d'enfance. Et qu'il est souvent associé à la peine d'un enfant abandonné ou solitaire, et qu'en fait, la discontinuité du chagrin, qui est sporadique, hein, qui revient par moment seulement, est un piège en fait. C'est-à-dire qu'on manque, à cause de cette discontinuité des symptômes, des manifestations, la continuité et la constance de la peine, qui en fait est au fond permanente et indélébile. Donc je crois que c'est pour ça que j'aime ce mot. Encore une fois, parce qu'il est un peu enfantin, mais parce qu'il est fondamental, fondateur, et parce qu'il a été tellement bien commenté par des auteurs comme Proust ou comme Barthes, et que je me mets sous leur houlette.
En effet, et moi j'ai aussi une prédilection pour ce terme, Nathalie Azoulay. Je le préfère à d'autres, et effectivement il me fait penser à Proust, et à cette phrase admirablement commentée par Deleuze, « Les idées sont des succès d'années des chagrins, la pensée ne naît pas d'elle-même, d'une bonne volonté de penser, mais d'un choc, d'un ébranlement, d'un événement. » Et puis, en effet, et je l'ai relu à l'occasion de cette émission, au journal de deuil de Roland Barthes, un livre que vous connaissez, c'est pas vraiment un livre, c'est le journal qu'il a tenu, c'était en fait une ligne par jour, après la mort de sa mère, dont il ne se remettait pas, et dans ce journal publié longtemps après la mort de Barthes lui-même, dont je ne sais pas d'ailleurs si lui-même tenait à sa publication, mais c'est un texte extraordinaire. On le voit répéter le mot chagrin. Et par exemple, il dit ceci qui m'a beaucoup frappé. Ne pas dire deuil, c'est trop psychanalytique. Je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin. Et il récuse aussi le mot de désespoir. Désespoir, le mot est trop théâtral. Il fait partie du langage. Une pierre. C'est une pierre qu'il a, et pour cette pierre, il dit le mot chagrin. Et un peu plus loin, le 20 juillet 1978, impossibilité, indignité de confier à une drogue, sous prétexte de dépression, le chagrin, comme si c'était une maladie, une possession, une aliénation. Quelque chose qui vont en étranger, alors que c'est un bien essentiel, intime. Pas d'antidépresseur, pour soigner sa dépression, justement, mais une manière pour lui de cultiver son chagrin. Et le mot rend possible ce rapport à la douleur, me semble-t-il.
Nathalie, oui, on garde la peine quand on a du chagrin. Et moi, ce que j'aime aussi dans ce mot, c'est qu'il vient de la matière. Hein. Étymologiquement, ça vient du cuir d'un animal. Et en fait, par analogie, il me semble, parce que le trajet de sens est un peu mystérieux et les dictionnaires ne sont pas très clairs là-dessus, mais il me semble que la peine a été indiquée par le fait que les larmes, à force de couler sur la peau, rendent la peau tout aussi grenue et rêche qu'un cuir. Voilà, donc il y aurait ce trajet de sens qui, quand je dis le mot chagrin, affleure en fait. Et j'aime beaucoup ce rapport entre la matière et l'esprit du chagrin.
Oui, c'est magnifique. Alors je me tourne vers vous, Belinda Cannon. L'un des deux mots que vous avez choisi dans ce dictionnaire, c'est un mot dont je... Les trois, pardon. C'est un mot dont j'avoue que j'ignorais. L'existence et le sens, mais vous parlez d'ailleurs de cette ignorance, c'est le mot foulque. Faites-nous découvrir ce mot et dites-nous les raisons qui vous l'ont fait choisir. Belinda Cannon.
Très bien. Eh bien, je vais vous lire aussi un extrait de mon texte. Donc, je précise que la foulque, c'est un oiseau aquatique tout noir, un peu rond, avec une tache blanche sur la tête qui le rend parfaitement reconnaissable pour peu qu'on le regarde. Récemment, par une belle après-midi d'automne ensoleillée, je me promenais avec un genevois au bord du lac à Genève. « Ah, des foulques !» ai-je lancé avec une secrète joie minuscule. Mon compagnon ne voyait pas de quoi il s'agissait. Je les lui ai désignés, tout étonné, un habitué du lac né sur ses rives qui n'avait jamais remarqué les foulques. Cette incuriosité m'a rappelé la fois où j'avais parlé des pies qui voletaient dans les pins autour de nous et mon ami m'avait avoué ignorer à quoi ressemblait une pie. Une pie si grosse et bruyante, avec son costume tellement reconnaissable et presque aussi commune que le pigeon. Ou cette autre fois en Grèce, qu'en nageant au milieu des castagnoles, noires et queues fourchues, poissons qui sont les pies de la Méditerranée, je demandais à une femme du village de leur nom que je ne parvenais pas à retrouver. Elle l'ignorait. Je ne sais si vous pouvez vous figurer chaque fois ma stupeur, vivre au milieu du monde sans le nommer, sans le voir donc, ou voir un continuum et rien de distinct, ne pas être curieux de ce qui nous entoure, balayer d'un regard indifférent l'univers visible, comme c'est étrange. Et pas seulement étrange, mais d'une étrangeté qui me blesse. Ces expériences renouvellent mon étonnement et mon inquiétude devant les manières si profondément différentes d'utiliser chacun notre cerveau. J'aurais tendance à croire que nous percevons tous la même chose, que nous pensons à peu près la même chose, et pas du tout, pas du tout. Que m'apprennent ceux qui vivent parmi les foulques et les castagnoles en ignorant leur nom, qu'ils ne distinguent pas ce que je vois dans l'univers, que la diversité et la fantaisie de l'existant ne les frappent pas, ne les émerveillent pas. Tous les mots sont parfaits et désirables, même les moches, comme Castagnol, parce qu'ils répondent à notre soif de nommer le monde, pour le fixer, le retenir et surtout le voir vraiment, le partager aussi. Ce qui vaut pour la beauté du monde vaut pour tout le reste. Nous nous croyons proches, semblables peut-être, alors que nous pensons si différemment. Tenez, même cette inquiétude profonde que j'essaie d'exprimer, je ne suis pas certaine que vous l'entendrez. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? En quoi serait-il grave de vivre parmi les castagnoles et les foulques sans les voir? même tristesse à l'idée, une supposition, que tous les jours au printemps, les habitants de Montmartre n'entendent ni le merle du Moulin Rouge qui chante rue Le Pic. Je me dévisse chaque fois la tête en passant pour l'apercevoir, perché sur une cheminée, ni le merle du Moulin de la Galette en face de mon bureau. C'est pourtant un privilège extraordinaire que les merles habitent parmi nous, eux dont le chant est le plus beau de ceux des oiseaux des villes. Foulque est le mot qui dit parfaitement ma blessure secrète.
En effet, je trouve que c'est pas seulement un texte intéressant, c'est un texte important qui peut dire aussi l'intérêt de ce dictionnaire, et c'est une sorte de morale du langage, c'est-à-dire plus notre vocabulaire est pauvre, plus notre expérience du monde est pauvre. Le langage peut être un accès à la richesse du monde sensible. Et d'ailleurs, je pense que en utilisant le mot de biodiversité ou le mot d'écosystème pour nous alerter sur la disparition des espèces, on enterre un peu ce qu'on prétend préserver, puisque tout d'un coup, la diversité des mots manque. Et je pense à cette très belle phrase de Merleau-Ponty, « L'être est ce qui exige création pour que nous en ayons l'expérience. » On peut dire « La nature a besoin de poètes pour que nous en ayons l'expérience. » Les poètes disparaissent, et avec eux, en effet, toute cette richesse du monde sensible, tous ces détails qui nous manquent pour éprouver quelque chose. Oui, devant la nature ou devant ce qu'il en reste.
C'est une sorte d'aller-retour permanent, en réalité, entre ce que nous voyons et qui appelle, qui demande à être nommé, ou bien ce que, dont nous connaissons le terme et que nous pouvons donc, puisque nous en connaissons le terme, voir. Quand je raconte l'anecdote sur le lac de Genève, ce qui est intéressant, c'est que cette personne qui connaissait parfaitement le lac et tous ses oiseaux n'avait jamais vu les foulques, mais aussi, d'une part, parce qu'il n'avait jamais regardé suffisamment, et aussi, n'ayant pas le mot, il ne pouvait pas voir la chose. Donc c'est vraiment constamment un aller-retour entre le monde et sa désignation. Et c'est dans ce va-et-vient qu'on arrive à avoir conscience du monde. Le problème de biodiversité ou d'écosystème, c'est sans doute que c'est l'autre problème des mots, c'est que parfois ils sont trop larges, trop synthétiques. Et c'est pourquoi nous avons besoin des écrivains, pour déployer les mots, pour commencer à les faire parler, si je puis dire.
Alors justement, faire parler les mots, c'est un autre aspect dans votre texte que vous n'avez pas lu, qui dit aussi l'une des significations du dictionnaire, parce que ça commence ainsi. Vous entendez comme il glisse dans la bouche, « foulque », le « ou » est étiré par le « l », après avoir commencé par glisser avec le « f ». Foule, et il se termine joliment, et comme en l'air, par « k »,« que ». À l'oreille, plus bref qu'il ne s'écrit. Il ne manque pas de sophistication, pourtant. L'association du « l » et du « k » obligeant d'un petit saut de la langue, du palais sur les dents du bas, comme une facétie. « L »,« k », association incongrue. Mais ça sonne rond, d'où « foulque ». Quel mot délicat. Et c'est un nom d'oiseau. Comme est délicat l'oiseau. Et là, ça rappelle le grand débat d'Hermogène et de Cratyle. Hermogène dit que le rapport entre les noms et les choses est de pure convention. Cratyle dit non, le nom dit la vérité de la chose. Évidemment, c'est Hermogène qui a raison. Saussure parle de l'arbitraire du signe, mais la poésie est cratylienne. Elle a toujours été cratylienne, c'est ce que dit Mallarmé, elle rémunère le défaut des langues. Elle rémunère le défaut des langues précisément parce qu'elle cherche sans cesse, si vous voulez, cette harmonisation du son et du sens. C'est ce que disait Valéry, la puissance des vers tient à une harmonie indéfinissable entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Et il me semble que ce dictionnaire des mots parfaits doit s'entendre dans plusieurs de ses articles, en tout cas, comme un dictionnaire cratylien, c'est-à-dire sensible à la poétique du langage, quand bien même ce ne serait qu'un rêve.
Oui, parce que c'est en fait les mots du poète ne sont cratyliens que dans un deuxième temps, c'est-à-dire que c'est parce que je m'intéresse à Foulque que je me mets à entendre ses sonorités aussi, voilà. Et ça n'est pas l'oiseau qui oblige à ces sonorités, bien entendu. Donc le poète fait ce travail de faire sonner les mots, de les entendre et de les faire résonner surtout.
Alors je voudrais en même temps lire un autre mot où ce cratilisme est très présent, c'est par Dominique Barberis, le mot nuage. Le mot nuage s'arrondit. La diresse suave et rêveuse distend le son vocalique, le soumet à une variation, ou plutôt une dilatation, qui mime celle de la chose nuage dans l'air. Dans nuage, il y a nage, sans U. La douceur mousseuse de sa dernière syllabe convient à la progression aisée du nageur, comme à la dilatation élastique des formes de vapeur d'eau, cette avancée à peine perceptible qui, dans un ciel bleu, par vent modéré, les pousse, les recompose, les agglomère, les étire, les boursoufle dans une logique infiniment fluide. Le mot nuage semble donc parfaitement adapté à la chose, gonflée de vapeur d'eau, mobile et fuyante, qu'il décrit, bien préférable à nu, par exemple. Et je lis aussi un autre passage très beau. La dérive apparente des nuages épouse celle invisible des continents. Rien de stable décidément, ni au-dessus de nous, ni en dessous. Les nuages passent et nous voyageons avec eux dans la même lenteur insensible. Nous regardons passer les nuages, mais nous passons avec eux nous aussi. Nous nous modifions avec eux, nous nous défaisons nous aussi lentement. Ainsi comme nous en voyons passer d'autres devant nous, d'autres nous verrons passer qui doivent à leur successeur le même spectacle, cette phrase terrible du sermon sur la mort m'a toujours fait penser à un ciel en mouvement. Et elle se défie des expressions comme un ciel sans nuage ou un bonheur sans nuage, parce que le mot nuage n'est pas très positif. Il amènerait le désastre, il amènerait la pluie. Et il y a tout autre chose. Mais là encore, c'est cette correspondance, cette harmonie du son et du signe qui est soulignée par le texte.
Oui, en même temps, comme on le voit bien avec nuage et avec cette affirmation de l'auteur, on voit bien que, comme le disait Barthes, le mot littéraire n'est en aucun cas le mot courant. C'est pas le mot que le dictionnaire explicite, mais c'est le mot que l'écrivain construit. Et là, dans l'extrait que vous avez lu, on voit bien comment l'auteur construit le mot nuage en réalité. Et donc, il y a cet effort ou ce plaisir aussi de faire dire au mot ce qu'il recèle pour l'auteur.
Il le construit quand il se met aussi à l'écoute. Il faut écouter pour construire. Et il me semble que Dominique Barberis écoute ce mot. Et Nathalie Azoulay, est-ce que c'est aussi l'une des dimensions de votre amour des mots, cette poétique, ce cratilisme? Dans Chagrin, on le sent un peu aussi quand même, non?
Un petit peu, je dirais que j'ai un cratilisme partiel, c'est-à-dire que bien souvent chez moi le mot chien ne mord pas, parce que ce qui m'intéresse davantage dans les mots, enfin ce qui fait la force d'attraction des mots chez moi, pour moi, c'est souvent les unités de sens et la surdité que j'y perçois. C'est-à-dire que pour moi un mot est d'autant plus présent, récurrent et parfois même obsessionnel que je ne le perce pas totalement, c'est-à-dire qu'il reste un petit peu opaque, il y a des zones auxquelles je n'accède pas, et je crois qu'à chaque fois, en fait, ce qui m'intéresse, quand je m'approche d'un mot, c'est de renouveler une forme d'expérience ontologique, le mot est un peu fort, mais d'expérience fondamentale du langage, c'est-à-dire de cet émerveillement que j'ai entre, pour la désignation, c'est-à-dire le rapport entre le mot et la chose, qui n'est absolument pas évident, qui est une décision, et qui peut faire défaut, c'est-à-dire que qui peut être entaché justement de surdité, d'opacité et déclencher une incompréhension. Et bien souvent dans le dictionnaire des mots parfaits, on voit que certains mots arrivent dans l'imaginaire et dans le lexique des écrivains par l'incompréhension, par le malentendu, par le faux sens même. Et je trouve cette expérience de l'incompréhension tout aussi fondamentale, c'est-à-dire qu'un mot s'installe parce qu'il résiste. Et j'ai le sentiment à ce moment-là de renouveler mon attachement au langage et mon apprentissage du langage.
Vous avez choisi le mot chagrin, le mot chair, mais y a-t-il d'autres mots qui vous donnent la même sensation, qui vous résistent et qui vous obsèdent parce qu'ils vous résistent, Nathalie Azoulay?
Alors j'ai une prédilection pour les mots du corps. Alors il y a ici le mot chair. Le chagrin est un peu aussi un mot du corps. Mais j'aime par exemple beaucoup les mots de la médecine et j'ai une passion pour l'anatomie parce que justement on a accès quand on arrive comme ça dans un domaine d'application très précise au dictionnaire, c'est-à-dire qu'on voit que des mots du langage courant ont dans des domaines d'expertise particuliers d'autres sens. Par exemple, j'adore le mot distal, qui est un mot d'anatomie qui désigne un membre du corps qui est le plus éloigné du centre du corps. On va dire par exemple que le radius est distal par opposition à l'humérus. Et en fait, ce mot me fait rêver, c'est-à-dire que il désigne quelque chose qui n'est pas dans le langage courant, mais dont moi je me suis servi dans mon langage courant, que j'ai importé, mais qui me vient du médical et qui me vient de cette science précise du corps que donne la médecine, et par les mots aussi, parce que on sait très bien que le corps est une forêt obscure et qu'il y a mille recoins auxquels on n'a pas accès. Et quand j'ouvre une planche d'anatomie, quand je regarde, eh bien je découvre des choses qui me sont très très familières mais que je ne savais pas nommer. Et encore une fois, je fais cette expérience de l'apprentissage du langage et de cette surdité qui s'estompe, en fait, de cette incompréhension que je réduis.
C'est d'ailleurs la merveille des dictionnaires. C'est la merveille des dictionnaires en général que justement de nous montrer que nous disposerions d'un lexique énorme, vraiment très important. Un des mots que j'avais choisi, c'était pampille, justement, dans ce dictionnaire, parce que pampille, vous vous rendez compte, il y a un mot pour désigner cette petite chose absolument sans importance et qui est la goutte qui pend au lustre, hein, la goutte de cristal ou de verre qui pend dans les lustres, les fameux lustres à pampille. Qu'il y a un mot pour désigner une chose aussi inutile et aussi peu importante, c'est merveilleux. Et c'est un peu ça que vous dites aussi, c'est-à-dire que quand on a accès au dictionnaire, tout à coup on découvre à quel point nous sommes riches de mots. Sans le savoir.
Et à quel point les mots sont riches de sens. Par exemple, le mot nominal, que nous connaissons bien en tant que littéraire, eh bien, il a un sens en économie et il a un sens en mécanique. Un jour, je l'ai entendu dans la bouche d'ingénieur qui me parlait du régime nominal d'une machine. Je me suis dit, mais de quoi parle-t-il? Et en fait, je suis allée regarder et je me suis dit, mais alors, c'est simplement le régime normal d'une machine. Et je me suis dit, mais alors, si le nom est la norme, pour les ingénieurs, enfin voilà, j'ai trouvé ça merveilleux que le nom figure dans le lexique d'un ingénieur.
Alors, je reviens à pampille, parce qu'on apprend, beaucoup en vous lisant Belinda Cannon. Foulque et aussi pampille, que je ne connaissais pas. Soudain, il m'est apparu, alors que le dictionnaire était quasiment terminé. Pampille, un mot si délicieux qu'il répond à une des versions de la perfection. Et là encore, vous écoutez le mot, son premier mérite est sonore. D'être suivi par P diphtongue, dont le M se met un peu à vibrer, rendant le mot très rond en bouche. Je viens d'évérisser son sens. Petite pendeloque, parfois groupée en franges, servant d'ornement, et je ne dirai rien de pendeloque, quel mot. C'est vrai, c'est un mot absolument merveilleux. Donc, vous aimez ce mot qui vous plaît au croisement du pampre et de la vrille. Et ce mot vous évoque le comble du luxe au sens du superfétatoire, du tout à fait inutile. Merveille de l'inutile, en effet. Mais il y a aussi, dans le dictionnaire, des mots qui sont choisis pour la morale qu'ils contiennent, qu'on aime parce qu'ils disent quelque chose que des mots voisins ne disent pas tout à fait. Par exemple, ce mot de vaillance, qui a été choisi par Marie-Hélène Lafon, et elle en fait un texte qui est comme une sorte de credo, de profession de foi. J'en lis quelques extraits. « Pour la douceur sur les lèvres, la caresse en bouche, et la main ferme dans le gant de velours, pour la souplesse, comme un feu de fumée derrière saison, qui sinue dans l'air bleu et tient au corps, parce que le mot est tenace, bondissant, dansant, parce que le mot rit, il est jeune, il jaillit, il est dru, il cavale, il caracole, il frétille et flamboie, et il est du côté de la joie têtue, recouvrée, réinventée. Cependant, pas d'esbrouf ni de redemontade, ni d'effet de manche, pas de roulement de tambour ni de buzz, pas de chichi ni de clinquant, pas de simagrée ni de grimace, pas de salamalec ni de rond de jambe, ni simili, ni triche, ni toc. Le mot, la chose et c'est tout. C'est déjà ça, c'est immense, ça se déploie dans le monde et ça n'a pas de fin, ça recommence, ça continue.
On voit à quel point ce dictionnaire n'a absolument rien de gratuit et comment il révèle les choix des auteurs en réalité, révèlent très profondément ou leur vision du monde ou leur poétique littéraire, mais parlent vraiment des auteurs dans ce qu'ils ont de plus intime.
Et d'ailleurs, alors je lis la fin, je pense à Madame P. qui pousse la neige des jours avec son ventre dans un hameau infime et très perdu à 1053 mètres d'altitude. Elle a enterré sa fille, elle a enterré son fils, son mari est un vieux mort assez élimé, sa descendance demeure évasive à l'horizon de villes lointaines et la télévision l'ennuie. Madame P ne capitule pas, son potager est pimpant, ses poules sont rutilantes et elle est la reine de la tarte aux pruneaux. Voilà donc la vaillance selon
Marie-Hélène Lafont qu'on reconnaît absolument dans ce texte.
On la reconnaît
c'est
tout
vraiment
à fait, oui.
Elle et ses préoccupations et sa vision du monde.
Il y a tous ces livres qui résonnent en effet avec ce texte. C'est un mot parfait pour elle, mais c'est ça qui est très bon dans le dictionnaire, c'est-à-dire c'est le comble de la subjectivité, mais cette subjectivité parle à tout le monde. Oui, c'est même Foulque, avec ce que vous en dites, ça m'a parlé. J'espère que je saurai les voir sur le lac de Genève, j'en suis pas sûr, il faudrait que vous m'accompagniez. Mais voilà, et chagrin, etc. Donc, comme si, sur la cime du particulier, comme disait Proust, naissait le général.
Mais c'est exactement ça, un écrivain, non? C'est quelqu'un qui essaye, à partir de sa particularité, de sa vision et de ses mots, de dire quelque chose qui sera universalisable, qui sera général. Donc en ce sens, le dictionnaire représente vraiment... Enfin, c'est vraiment un dictionnaire d'écrivain en ce sens-là. Cette subjectivité, nous espérons chaque fois qu'elle va rencontrer le sentiment général, universalisable.
Alors maintenant, je voudrais en venir aux mots qui ne figurent pas et qui me frappent par leur très grande beauté. Il y en a un dont François Furet, je crois, disait qu'il était pour lui le plus beau mot de la langue française. C'est le mot mélancolie, ce qui est autre chose que le chagrin d'ailleurs. Il ne fait pas double emploi. Et est-ce que vous l'aimez d'abord? Est-ce que son absence vous a étonné ou non, vous a frappé ou non?
Vous savez, si on avait interrogé 1 million d'écrivains, peut-être qu'on aurait trouvé mélancolie.
Oh, je pense que j'aurais pas besoin d'un million pour mélancolie.
Non, en effet. Mais non, en tout cas, il ne me manque pas la mélancolie qui est vraiment pour moi l'avers du désir, le contraire du désir, ce qui lui fait face, un peu comme le recto et verso d'une feuille plutôt, aurait pu être dans ce dictionnaire si on avait parlé aussi du désir, on aurait trouvé également la mélancolie. Ce sont des mots très beaux et ce sont des mots très généralement beaux. C'est vrai que vaillance, par exemple, ou même chair, ce sont des mots plus singuliers, je dirais, moins universellement reconnus.
Mélancolie que j'aime tant, c'est un peu banal, me dites-vous.
Un peu banal
d'aimer mélancolie. Vous êtes d'accord avec verdict?
Je pense que je me serais abstenue. Il ne m'est pas venu, mais je pense que je me serais abstenue de le traiter.
Ça vient trop souvent à l'esprit.
Oui,
c'est
on l'utilise beaucoup et d'autres que des écrivains d'ailleurs l'utilisent un peu à toutes les sauces.
Je vais le défendre quand même avec 2 citations. Hein. D'abord celle-ci d'Apollinaire. Dans vos viviers, dans vos étangs, carpe, que vous vivez longtemps. Est-ce que la mort vous oublie, poisson de la mélancolie? Pas mal. Et puis, La Fontaine. Ces vers admirables qui pourraient vraiment servir de devise. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Ça n'a rien d'ordinaire.
Non.
Vous êtes d'accord?
Ouais,
ni La Fontaine, ni Apollinaire. Il y en a un autre, je sais pas, qui moi me frappe aussi. Ça a tout ça à voir d'ailleurs avec le chagrin et la mélancolie. Mais bon. C'est adieu. Je trouve ce mot très beau. Il est traité admirablement par Lévinas et par Derrida, qui en donne la signification métaphysique. Et un poème d'Apollinaire qui s'appelle « Adieu ». J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Voilà. Bon. Mais c'est pas mal, adieu, non?
C'est pas mal du tout.
Hein? Mais, vous l'accepteriez dans une nouvelle version du dictionnaire?
On a accepté toutes les propositions des auteurs, de toute façon.
Ah, vous avez accepté toutes les propositions?
Toujours. Une fois qu'ils avaient accepté de participer, on acceptait leurs mots.
Comment avez-vous opéré votre choix? C'est-à-dire les écrivains, vous les avez choisis parce que vous les aimiez, vous les connaissiez?
Oui, pour tout ça. C'est un choix absolument subjectif lui aussi. On a choisi les écrivains qui nous paraissaient les plus intéressants, les plus riches, les meilleurs écrivains de notre époque, et on leur a demandé de jouer le jeu du dictionnaire, mais bien entendu, comme c'était subjectif, leur choix aussi était subjectif et notre acceptation leur était acquise d'emblée.
Mélancolie, vous l'écartez, Nathalie Azoulay, mais là je vous demande à toutes les deux, sensibles que vous êtes à la beauté et la diversité du monde, est-ce qu'il n'y a pas des animaux qui pourraient figurer dans ce dictionnaire, parce que justement leur désignation le ressemble un peu, je trouve. Moi, j'aurais aimé y voir. Moi, ça m'est égal, en fait. Non, parce que on est très heureux de lire ce qu'on lit, mais c'est un jeu que l'on fait. Quel mot chérit-on? Quel mot aime-t-on? Moi, il y a trois animaux qui me sont venus à l'esprit. C'est éléphant, rhinocéros et hippopotame. Un hippopotame, c'est, on peut pas imaginer meilleur nom pour l'animal. Et rhinocéros, je pense à Chesterton, c'est une chose que de raconter une entrevue avec une gorgone, une créature qui n'existe pas, c'en est une autre de découvrir que les rhinocéros existent bel et bien, et de se réjouir de constater qu'il a l'air d'un animal qui n'existerait pas. Et rhinocéros, on a l'impression qu'il y a tout le rhinocéros, il y a déjà les deux cornes dans la longueur du mot, quoi. Et ces animaux, on les aime aussi à travers le nom qu'ils portent. Vous êtes d'accord avec ça?
Absolument, absolument. Mais je constate donc que ma foulque et ma pie et mon merle ne font pas le poids face à vos animaux qui sont des animaux substantiels, vraiment.
Ah, vous avez raison. Là, vous avez raison. Ah, oui, il faut penser à ces tout petits animaux qu'on ne voit pas, alors que rhinocéros, on le connaît, on le voit. C'est vrai, on le voit. Enfin, en même temps, il fait partie de ces espèces menacées dont on a raison de parler, hein, le rhinocéros. Et
l'éléphant
aussi.
Je me demande
aussi.
Si on se met pas à les trouver sonores, joliment sonores, dans un après-coup aussi. Hippopotame ou rhinocéros, ce sont des sonorités très, très fortes, mais je pense qu'on les trouve belles rétrospectivement en les associant aux animaux. Donc il y a ce va-et-vient toujours entre les sonorités et l'objet qui est désigné, qui n'est pas direct.
Oui, et alors c'est le langage, c'est vraiment une chose très curieuse. Je pense à un autre animal. Si vous parlez des porcs, franchement, c'est un mot glaçant, un monosyllabe terrible, déjà industriel. Et si vous dites cochon, c'est pas du tout la même chose. Et malgré toutes les blagues qu'on peut faire sur les cochons, c'est adorable le mot cochon.
Mais si vous dites le port d'Amsterdam, c'est adorable aussi.
Comment?
Si vous dites le port d'Amsterdam, c'est aussi adorable, l'homophone.
Oui, c'est vrai. Mais le port avec un C.
Oui, j'entends bien, mais je ne pense pas que ce soit la sonorité, en fait, qui soit en cause. Bah, puisque quand il est portuaire, il est moins désagréable.
Oui, c'est vrai, quand il est portuaire, il est désagréable. Mais je vais vous lire là maintenant un extrait de L'insoutenable légèreté de l'être. C'est la fin, très mélancolique et idyllique à la fois. Teresa et Thomas, dont on sait qu'ils vont mourir, ça a été annoncé dans le chapitre précédent, sont dans une coopérative agricole, hein, éloignée de tout. Et le président de la coopérative a eu l'idée d'apprivoiser un cochon, d'en faire un animal domestique. Il se promène avec lui et il est en laisse, l'animal. Quand le président de la coopérative allait promener son Méphisto, il s'appelle Méphisto, après le travail et rencontrer Teresa, il n'oubliait jamais de dire « Madame Teresa, si seulement je l'avais connue plus tôt, on aurait couru les filles ensemble, aucune femme ne résiste à deux cochons. » Et il fait cette blague tout le temps, Teresa l'attend, et il dit, Kundera commente, la répétition, l'idylle, c'est la répétition, et même l'humour obéit à la douce voix de la répétition. Mais c'est impossible de dire « aucune femme ne résiste à deux porcs ». Et on peut dire de quelqu'un qui est un porc, vous voyez, il y a quand même une puissance évocatoire du mot qui est assez extraordinaire.
Oui, mais je pense que c'est en fait le régime de la connotation que vous désignez là, plus que le son ou la graphie. En fait, c'est toutes les connotations dont l'histoire et la culture et la société se chargent ensuite.
Oui, vous avez raison.
Et qui chargent le mot de manière positive ou négative.
Mais vous voyez, dans ce dictionnaire, on a essayé de faire un peu l'inverse quand même. C'est-à-dire, on a essayé non pas de retrouver les significations générales ou les connotations habituelles, comme il peut y en avoir aussi, mais plutôt d'aller. On a demandé aux écrivains de dire comment ils inventaient leur langue dans la langue générale. C'est-à-dire, quels mots les intéressaient. Ça peut être aussi bien groseille, où on a eu groseille et venaison, par exemple, ou adéquate, ou que sais-je, ou éphémère. C'est-à-dire comment, dans la langue commune et partagée, et aux significations partagées, les écrivains s'appropriaient certains mots, les faisaient leurs, et on leur a demandé d'expliquer pourquoi ils s'étaient appropriés ces mots et quels échos, à la fois affectifs et intelligibles, ces mots avaient pour eux. Donc, chaque fois, c'est une entreprise de resubjectivation de la langue, un peu à l'inverse de ce qui se passe quand on est enfant et qu'on croit que la langue est absolument intime et personnelle et qu'on découvre, hein, c'est le fameux exemple de Léris qui découvre un jour que heureusement, qu'il disait souvent, heureusement, ça n'est pas un mot à lui, un mot qui lui appartenait, mais c'est un mot que les autres utilisent, qui a une étymologie, etc. Et il est stupéfait de comprendre que la langue, en fait, obéit à un régime social et commun. Donc nous, on a demandé aux écrivains de faire l'inverse, c'est-à-dire de retrouver comment, dans la langue générale, ils faisaient leur butin, au fond. Comment ils s'appropriaient la langue, comment ils s'étaient appropriés la langue et la construisaient pour eux.
Et oui. Si je peux ajouter quelque chose, quand Belinda Cannon m'a demandé de participer à ce dictionnaire, en fait, moi, je ne suis pas allée glaner un mot plaisant. En fait, j'ai cherché au sein de mon travail quels étaient les mots qui venaient souvent sous ma plume. Et je ne les ai pas choisis au hasard. Par exemple, le mot « cher » que j'ai choisi revient dans mon dernier roman 17 fois. Donc, en fait, il s'agit moins d'un bonheur d'oreille ou d'une capsule sonore que d'une unité de sens pour moi, et d'un motif psychique carrément, j'irais jusque-là. Et donc, à l'intérieur de ce mot, il y a des représentations, il y a des obsessions qui me sont propres, mais qui traversent tout mon travail et beaucoup de mes romans. Donc, ça va bien au-delà de la capsule sonore ou poétique.
Oui, c'est un mot thème, en effet, le mot « cher » pour vous. Il n'empêche, je résiste un peu au terme de « construction », ou d'appropriation, parce que j'ai le sentiment que tous les écrivains que vous avez sollicités, ou la plupart d'entre eux, se sont mis à l'écoute de la langue. Voilà. Les mots nous parlent, hein, avant même que nous parlions. Et c'est très beau d'écouter la langue. Et vous le faites les uns et les autres de manière admirable. Alors vous avez cité Léris, en effet. C'est le premier chapitre de Bifur qui commence avec ce « heureusement ». Bifur, premier tome de la fameuse règle du jeu, l'entreprise autobiographique de Michel Léris. Mais le langage le hantait et il a écrit un dictionnaire, « Glossaire Gicermégolose », où se trouve un mot qui aurait pu figurer dans vos dictionnaires. C'est un mot triste, mais c'est un mot parfait. « Monotonie ». Et la définition qu'il donne, puisque elle est faite, les définitions sont faites justement des sonorités même du mot, les hauts s'ennuient comme des momies. Ah, et c'est Michel Léris. Mais vous avez fait aussi un autre dictionnaire, deux autres dictionnaires, le dictionnaire des mots en trop. Et là, j'étais très heureux d'y voir figurer. En fait, on aurait pu lui ajouter son compère du coup, gérer, psy, rebondir, ressenti, revisiter. Ça d'ailleurs, l'article revisité m'a m'a fait un bien fou. Il est écrit par Olivier Barbaran. Le verbe revisiter, ça se définit comme donner un éclairage entièrement nouveau sur une donnée ou un problème. C'est la définition de Larousse. Et, dit l'auteur, le verbe condense en effet tout le narcissisme en vogue et flatte les prétentions à l'autonomie créatrice, notre maître mot de nos pays développés. Quand un classique se nourrissait, qu'un romantique s'inspirait, notre contemporain revisite. Je trouve qu'on ne pouvait pas dire mieux. Et vous avez fait aussi, et ça je trouve une entreprise absolument merveilleuse, un dictionnaire des mots manquants. Il y a des mots qui ne figurent pas dans la langue. Et je pense souvent d'ailleurs à des mots anglais qui désignent mieux certaines réalités psychiques que les mots français. Nous sommes envahis par le globiche, les rewriters, les designers, le coaching, le listing, les testing, etc. Mais il y a des mots anglais comme self-righteous qui n'a pas d'équivalent français. L'auto... je sais pas, le contentement de soi, etc. Et congenial, qui dit autre chose que sympathique ou agréable. Et
vous notez d'ailleurs que la plupart des mots anglais du globish ont leur équivalent très commode en français.
Absolument.
C'est-à-dire c'est une pure coquetterie.
Et alors parmi les mots qui nous manquent, il y a celui de Kairos, hein, l'occasion, dont parle très bien Anne Dufour-Montel. Et puis il y en a un autre, là. Que on a du mal à trouver. Et Henri Reynal explique pourquoi. Henri Reynal, qui a aussi contribué au dictionnaire des mots parfaits, mais là, il s'agit des mots manquants. Il n'y a. Ça, on dit souvent coquetterie. Et il dit. Ce mot coquetterie me met mal à l'aise. Parce que on y entend goût. Mais aussi, ces notions fussent-elles présentes discrètement, futilité et superficialité. Et on ne sait pas par quoi remplacer coquetterie, et une telle lacune, dit-il, est la conséquence de la mauvaise opinion dont est victime la préoccupation vestimentaire. La méconnaissance, l'injustice dont elle souffre viennent de loin. C'était le préjugé religieux d'abord. Et lorsque la puissante culpabilisation religieuse a pris fin, le vêtement n'a pas été réhabilité pour autant. Il a été l'objet d'un dédain que nourrissent deux autres préjugés, la misogynie et ce qu'on pourrait dénommer la misophanie. Par là, j'entends le parti pris qui, en tout domaine, a pour effet de disqualifier l'apparence. Elle serait trompeuse, mensongère. Et il vise, lui, dans son œuvre d'ailleurs, à réhabiliter l'apparence. L'apparence n'est pas chargée d'être la tradition conforme de ce qu'elle enveloppe, de ce qui se bornerait à se projeter sur son dehors, mais bien sa création. J'appelle poétique ce qui s'oppose à utilitaire dans la préparation des repas ou l'arrangement de la maison ou encore la composition d'un bouquet. Sociologie et psychanalyse, se saisissant du vêtement, passe à côté de sa poésie. Il y a une légitimité, une innocence du paraître. L'apparence, c'est une contribution à la beauté du monde.
Absolument.
Et le mot de coquetterie ne rend pas justice à cette contribution. Vous seriez d'accord, Benoît?
Absolument, absolument d'accord. J'aime beaucoup la pensée d'Henri Reynal et ses livres. Et vous voyez aussi d'ailleurs à quel point chaque fois qu'en tirant le fil d'un mot, on accède à la poétique et à la pensée d'un auteur. Et là, c'est vrai qu'on reconnaît absolument cette pensée très importante d'Henri Reynal sur ce qu'il appelle la parure et qui se donne là à saisir à travers ce mot manquant. Je voulais dire que le dictionnaire des mots manquants, ça a été vraiment le premier de notre entreprise et on ne savait pas qu'on en ferait trois à la fin. Mais le dictionnaire des mots manquants, c'était vraiment celui qui a été à l'origine de ce projet parce que les mots manquants, pour un écrivain, évidemment, c'est capital. C'est parce qu'il y a des mots manquants constamment ou parce que les mots ne suffisent pas qu'on fait de la littérature, qu'on écrit des poèmes, des essais ou des romans.
C'est une des raisons. Alors, d'ailleurs, il essaye, Henri Reynal, à la fin de son article, de remplacer coquetterie par apparure, mais ça ne va pas vraiment. C'est un néologisme presque trop brutal, me semble-t-il, pour réussir à désigner tout à fait ce qu'il désigne. Mais souffrez-vous des mêmes problèmes, Nathalie Azoulay ? Est-ce que vous aussi vous écrivez parce que il y a des mots manquants ?
Je ne dirais pas que les mots manquants me font écrire. Ce sont plutôt des formulations manquantes ou ce sont des besoins de précision, mais je trouve qu'on a beaucoup de mots à notre disposition. Je trouve que la grammaire et le vocabulaire français sont déjà très très riches. Je ne souffre pas de manque. Alors je peux avoir des manques occasionnels. Par exemple, il y a un adjectif qui vient de l'espagnol et qui nous manque en français, qui est l'adjectif ajena. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a honte pour quelqu'un, on dit qu'on a une vergüenza ajena en espagnol. Et je trouve que c'est un mot très très important, très manquant en français. Nous, on est obligés de l'analyser, enfin d'en faire une périphrase. Hein, la honte que j'éprouve pour lui, par exemple. Et ça, par exemple, ça peut me manquer, mais ça force l'expression, ça force la formulation et ça nous oblige à préciser avec les mots qu'on a déjà et qui sont bien nombreux. Donc je ne déplore pas un manque sur le plan du vocabulaire.
Vous ne recourez pas au néologisme quand vous écrivez ? Ça vous arrive
ou... Non, je peux recourir à des espèces de conglomérats de mots, à des mots-valises ou à des fusions de syllabes, mais
oui,
pas vraiment des néologismes.
Et vous non plus, Vénine Lacanane
je répondrai deux choses. D'abord que ce mot, la honte pour l'autre, a été traité dans les mots manquants, si je me souviens bien, par Véronique Ovaldé. Donc en effet, il y a là un manque très criant. Il y a des mots manquants vraiment. L'idée première du dictionnaire m'était venue en constatant qu'en en français et dans même à peu près toutes les langues, sauf peut-être l'hébreu, le mot qui désignait le parent qui a perdu son enfant,
ah oui.
Situation humaine générale qui traverse toute l'histoire de l'humanité et affecte en profondeur l'humanité, dont on pourrait donc s'attendre à ce qu'il ait un mot pour le désigner, eh bien n'en a pas. Alors c'est vrai que quand j'ai découvert ça, ça m'a paru tellement extraordinaire que tout de suite l'idée du dictionnaire m'est venue et je me suis dit « mais il faut qu'on demande aux écrivains ce qui leur manque ». Maintenant, je suis d'accord avec vous, c'est rarement un mot qui nous manque. On n'écrit pas parce qu'il manque un mot, on écrit parce qu'il nous manque en réalité une zone de sens, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été assez exploré ou qui n'a pas été encore dit ou pas encore... Regardez combien de romans d'amour. Pourquoi tant de romans d'amour ? Mais parce que quand on a dit amour, on n'a encore rien dit.
On écrit pour savoir.
Mais oui, exactement, on écrit pour déployer tout ce qu'il pourrait y avoir là derrière, je dirais. Donc on n'écrit pas pour l'absence, à cause de l'absence des mots, on écrit à cause d'absence de sens, plutôt, bien entendu, c'est plus général qu'un mot, mais parfois, en tirant le fil du mot, on arrive quand même à dire quelque chose de capital.
D'ailleurs, amour n'est pas un mot parfait. Hein, ne
pour
figure
personne.
Pas parmi les mots parfaits.
Mais non. Je crois que c'est comme mélancolie, on aurait eu honte de le choisir.
C'est juste, oui.
Oh, c'est pas tout à fait la même chose, quand même. Il me semble. Mais on pourrait, d'ailleurs je pensais encore à d'autres mots. Alors justement d'ailleurs, il y en a un, c'est tout à fait extraordinaire, qui a fait cet exercice sans le savoir. C'est un auteur islandais, un romancier islandais que j'ai découvert récemment, qui a vraiment une force poétique alors qu'il est romancier tout à fait rare. Je ne sais pas si vous le connaissez, John Kalman Stefansson.
Oui.
Et ce roman s'intitule « D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds ». Vous connaissez ?
Hein ? Un grand lyrique. Un grand lyrique du Nord.
Absolument.
Oui.
C'est un grand lyrique. Et là, tout d'un coup, voilà ce que je lis. « Étreinte est sans doute le mot le plus beau de toute notre langue ». Il le dit en islandais. Ça peut marcher. « Ouvrir ses bras pour toucher une autre personne, tracer un cercle autour d'elle, s'unir à elle l'espace d'un instant afin de constituer un seul être au sein des maelstroms de la vie sous un ciel couvert d'où Dieu est peut-être absent. Ça aurait pu figurer.
Absolument. C'est un mot magnifique, étreinte. C'est une idée magnifique.
C'est quand même étonnant. Et il cherche le mot parfait aussi. Il dit c'est le mot le plus beau de notre langue. Peut-être pas nécessairement pour sa sonorité. Je sais pas évidemment ce qu'il en a en islandais. Mais par ce qu'il nous dit. Et ça m'a fait penser à contrario. Un mot qui ne figure pas. Mais peut-être que vous allez me trouver trop vraiment cuculapraline, hein. Bon, c'est possible. C'est le mot caresse. C'est beau le mot caresse. Et Lévinas en fait une description tout à fait extraordinaire, parce qu'il dit contrairement à l'image fusionnelle de l'étreinte, que la caresse est une marche à l'invisible, que la forme ne cesse de se dérober. Hein, c'est ça, la femme échappe, dit-il. Et c'est justement le plaisir, la volupté paradoxale de la caresse. Et là encore, le mot caresse n'a intéressé personne.
Je crois que c'est pas que ça n'a intéressé personne, c'est que tout le monde était bien d'accord pour dire que ça n'est que la chose était belle, la chose était parfaite, caresse, amour, même mélancolie. Ce sont des choses qui sont parfaites. Tandis que quand nos auteurs traitent, par exemple, cubiténaire ou cornichon.
Cornichon, là, c'est merveilleux, cornichon.
Ben voilà, là, on voit qu'un mot peut ne pas renvoyer à une chose merveilleuse en elle-même, et pourtant, pour cet auteur, par un réseau d'échos, de significations diverses et tout à fait propres, renvoie à une certaine forme de perfection subjective, encore une fois.
Mais il me semble qu'en choisissant le mot cher, j'ai parlé et de l'étreinte et de la caresse et de tous ces contacts et ces pertes de contacts par lesquelles on passe.
Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Et ce dictionnaire très subjectif, je le rappelle et je le redis, parle à tous. Mais si j'ai cité caresse et mélancolie, c'est parce que les mots eux-mêmes sont d'une grande beauté. Alors, je rappelle le titre du livre que vous avez co-dirigé, Belinda Cannon, et auquel vous avez collaboré, Nathalie Azoulay. C'est le Dictionnaire des mots parfaits. Il est publié aux éditions Thierry Marchès, ainsi que le Dictionnaire des mots entrots et le Dictionnaire des mots manquants. Ce sont trois livres merveilleux. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.